Bien-aimé, bonsoir. Tenons-nous sur nos deux pieds pour dire au Seigneur, il ne s'agit pas d'un soir de plus, mais il s'agit d'un soir particulier. Dites merci au Seigneur parce qu'il a voulu que vous soyez là. Faites un vœu à l'Éternel, celui de voir votre mentalité changer, celui de voir Dieu attaquer les fondations d'une mentalité qui ne lui donne pas gloire. Dispose-toi comme un vase que tu voudrais que l'Éternel remplisse. Dieu Seigneur, même s'il s'agit seulement d'une seule chose, ce soir, qu'il t'engage à changer dans ta mentalité, dis-lui que tu te soumettras. Seigneur Jésus, nous sommes venus ce soir parce que tu nous as convoqués. Depuis ce matin, tu parles à notre mentalité, tu parles à nos pensées, tu parles à nos cœurs. Si jusqu'à présent nous avons résisté, Seigneur, nous invoquons la puissance de ton Saint-Esprit et nous acceptons de nous soumettre à tout ce que ton Saint-Esprit exigera de notre part ce soir. Père, si tu formules pour nous des projets de bonheur, ce bonheur passe également à un renouvellement de notre mentalité. Merci de l'accomplir ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous soumettons corps, âme, esprit et nous nous élevons contre toute résistance à ta parole ce soir. Donne-toi gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillons nous asseoir. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Il s'agit du second thème qui fait partie du grand ensemble pose de nouveaux fondements. On ne saurait poser de nouveaux fondements sans attaquer sa mentalité. Si hier on a déclaré laisse Jésus-Christ régner, Jésus-Christ ne règne pas et certains aspects sont toujours sous notre contrôle. Si Jésus-Christ règne, cela suppose que notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit et nos pensées lui sont soumises. Ta mentalité, en réalité, ce qu'il est bon de savoir d'emblée, la mentalité fait partie d'un système de croyances, d'idéologie, d'attitude et de manière d'être qui détermine ta personnalité. En d'autres termes, tu es le fruit de ta mentalité, de tes attitudes, de tes habitudes, de tes idéologies et cela forge donc ta personnalité. Ta mentalité également est déterminée par ton identité et ton identité est l'aspect caché et visible de ta personne. Alors, ta mentalité est déterminée par ton identité. Ton identité, il y a ton nom, il y a ta nationalité, il y a ton sexe, il y a ton âge, ta taille et bien d'autres tes origines. Ton identité chrétienne également te donne des origines. Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es sauvé. Tu es un frère de Jésus. Une fois devenu donc une nouvelle créature, nous avons aussi une nouvelle mentalité. Car les choses anciennes sont passées, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Donc, si Dieu fait en nous toutes choses nouvelles, il attaque également le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de notre pensée, de notre manière d'être et d'agir. Ça, on peut le voir dans Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Ta mentalité influence donc toute ta personnalité. Ce soir, il sera question pour nous de refuser d'entretenir des mauvaises pensées. Il sera également question pour nous d'évoquer quelques mentalités prisonnières. Et de dire comment en sortir de ces mentalités-là et enfin avoir la mentalité de Christ, celle des vainqueurs, et comment vivre dans cette mentalité. Voilà les différentes articulations de notre exhortation de ce soir. Refuse d'entretenir de mauvaises pensées. La bataille spirituelle dans le monde aujourd'hui, où le gouvernement dans le monde prend sa source dans la pensée. Tout est conçu dans un système de pensée. Et c'est ce système de pensée qui nous est imposé. Les gens s'asseyent dans des laboratoires pour concevoir le monde, pour penser le monde. Et ils nous imposent ce monde-là. Le système donc de pensée auquel tu fais face est un système destructeur et tu dois identifier les sources de ce système de pensée. Celui de ce monde, il vient de Satan, c'est-à-dire le système de pensée de ce monde vient de Satan. Il est destructeur, il est ennemi de ton bonheur et du mien. Mais celui que Christ nous offre, c'est un système de pensée qui participe à notre bonheur. Il y a donc deux mentalités qui gouvernent le monde. Une mentalité destructrice qui vient du diable. Une mentalité destructrice qui conduit à la perdition. Et une mentalité de vainqueur qui participe à ton bonheur. La Bible dit que nous sommes le produit de nos pensées. Tu es le produit de ta pensée. Ce que tu manifestes, la pensée en fait, c'est comme une grossesse. Quand une femme est enceinte, elle accouche, n'est-ce pas? On voit, c'est manifesté maintenant. Le comportement que tu as ou les attitudes que tu adoptes sont la résultante de ta pensée. Proverbe 23, verset 7, pouvait nous dire que tu es le reflet des pensées de ton âme. Toute pensée qui porte les germes du péché doit être repoussée ou détruite. Et 1 Jean 4 nous dit que tel Dieu est, tel nous sommes. Donc, si nous sommes une nouvelle créature, notre pensée ou notre mentalité, c'est la mentalité de Dieu. À l'opposé, si nous ne sommes pas une nouvelle créature, selon 1 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, ou Jean 3, 3, alors nous sommes également le reflet de la semence du péché en nous. L'ennemi de nos âmes, Satan, est conscient de cela. Satan n'attaque pas d'abord les hommes dans leur chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Satan ne nous attaque pas dans notre chair d'abord. Il nous attaque dans notre pensée. Il bombarde tous les jours notre âme de plusieurs pensées. Et aujourd'hui, le système mondial, quand je dis système mondial, je parle là du système établi par les gouvernants, veulent imposer à notre pensée des choses abjectes. Homosexualité, lesbianisme, mariage pour tous. Ça, c'est un système de pensée. Alors, tu es le reflet de ce que tu penses. C'est pourquoi, si tu sèmes une pensée, elle produit un comportement. Et lorsque tu sèmes un comportement, lui, il produit une attitude. Et l'attitude elle-même produit une habitude. Et une habitude fait donc partie de ta mentalité. Et on va attendre les gens dire, c'est déjà dans mon sang. Je fais n'importe comment, c'est dans mon sang. Non. Tu n'as pas été conçu ainsi. Les mentalités qu'il faut refuser, au temps de Noé et à Sodome et Gomorre, Dieu avait déjà évoqué les mentalités qu'il faut refuser. Mentalité d'esclavage. Au temps de Noé, les hommes se mariaient leurs enfants. Oui. On peut voir ça dans Genèse chapitre 6. Et à Sodome et Gomorre, cela a continué par les pratiques homosexuelles, du lesbianisme, l'impudicité sur toutes ses formes, les mentalités rétrogrades, les hommes sont devenus des animaux, la bestialité, la zoophilie et bien d'autres. Quand une nation commence à cultiver la pensée ou la mentalité de comprendre le péché, suivez-moi bien, quand dans une nation ou dans une famille ou dans un quartier ou dans une église, on commence à cultiver la mentalité de comprendre le péché, la perdition de cette nation est proche. Elle est imminente. Dieu ne t'a pas créé pour que tu comprennes le péché. On ne cherche pas à comprendre le péché. Ceux qui cherchent à comprendre le péché sont des hommes de compromission. Il faut quand même comprendre que on peut aussi penser que il n'est pas quand même dangereux. Je peux voir, mais je ne pense pas. Qui t'a dit ça? Je peux voir des gens pratiquer l'homosexualité, ça ne va rien me faire. Ça me dit même quoi? Rien. On ne comprend pas le péché. Et plusieurs personnes voulant comprendre le péché sont entrées de plein pied dans le péché.
plusieurs personnes aujourd'hui pratiquent l'homosexualité parce qu'elles ont voulu comprendre que quand on fait même ça, ça fait même comment? Ça se passe même comment? Et certains ont pris la défense pour dire, pour expliquer aux gens que c'est quand même normal. On ne comprend pas le péché. Ça, c'est le point de départ. Refuse de comprendre une pensée qui vient de l'ennemi de Dieu. Dès que tu veux comprendre cela, tu es perdu. Donc je disais, quand une nation commence à cultiver la pensée ou la mentalité de comprendre le péché, elle se place de façon implicite sous l'autorité de Satan. Refuse la mentalité de séduction, il faut la dénoncer. Les comportements, aujourd'hui, on a les Jézabel. Les comportements des Jézabel et des Dalila sont pleins dans l'église et dans le monde. Jézabel, allez-y dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Vous allez voir ce que Dieu dit au sujet de Jézabel. Ce qu'elle est capable de faire. Ça, c'était la mentalité de Jézabel. Et celle de Dalila, vous connaissez l'histoire de Dalila avec Samson, non? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Allons-y dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Celui qui a trouvé, lit rapidement. Vous n'avez pas vos Bibles? Oui. Ce que j'ai contre toi. Tu laisses Jézabel, la femme qui se dit prophétesse, c'est-à-dire qui parle de la part de l'Éternel. Et enseigner et séduire mes serviteurs. Il y a un combat dans la pensée, dans les faux enseignements, où des gens se placent pour nous expliquer des choses qui sont compliquées à l'Esprit de Dieu de nous faire admettre. C'est ce que Jézabel faisait. Oui. Il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. On dit, on peut être chrétien et faire bien le nyang-nyang, non? Est-ce qu'il y a même quoi? Ce n'est que la culture. Il y a quoi là-dedans? C'est notre tradition. Ça, c'est la pensée et la mentalité de Jézabel. Alors, ce qu'il faut retenir, tolérer une pensée impudique fait de toi un impudique. Passer au marché à ne pas faire de ses yeux un pacte avec ses yeux comme Job l'avait dit et que son regard ne se portera pas sur une vierge. Quand je vois parfois, j'aperçois parfois les élèves rentrer des classes, ils savent bien que le vendeur de CD a déposé les choses au pornographique là et il dit que non, lui il est pur, il est vierge, il s'en va là, il s'arrête, il regarde. C'est impudique. Ta mentalité est polluée. Que tu le veuilles ou pas, Satan a déjà bombardé ton esprit. Et quand tu vas te coucher dans ton lit, rêve impur. On est venu coucher avec moi. Ça y est là-bas. C'est là que ça commence. Veille sur tes pensées. Dis à ton voisin, veille sur tes pensées. Parce que tu es un sanctuaire de l'Éternel. Alors on va voir quelques mentalités. Il y a la mentalité d'inquiétude. Il y a des gens qui portent les inquiétudes. On va d'abord comprendre ce que c'est qu'une inquiétude. Et d'où viennent les inquiétudes. Alors, que dit Dieu au sujet des inquiétudes? Une inquiétude, c'est se sentir mal, à l'aise ou se préoccuper. Une inquiétude, ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, c'est se torturer par des pensées inquiétantes. une inquiétude, c'est le fait de se torturer par des pensées inquiétantes. C'est-à-dire que toi-même, tu te crées un problème, non? Tu commences à vivre sans avoir la paix à l'intérieur de toi à cause de des pensées inquiétantes. Alors, pourquoi ne pas donc abandonner les inquiétudes si elles nous torturent? Tes inquiétudes sont incapables d'ajouter quelque chose à ta vie. Est-ce que vous vous êtes déjà un jour inquiété de ce que les enfants vont manger demain? Pendant que vous vous inquiétez là, ça a changé ce qu'ils vont manger?
Ça ne sert à rien.
Dieu avait compris ça à l'avance. Et il a dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Parce que je suis maître du lendemain. Ne t'inquiète pas. Elle n'augmente jamais nos jours. Matthieu chapitre 6, verset 27 nous dit que les inquiétudes ne peuvent pas augmenter la durée de ta vie. Elles réduisent plutôt. Plus tu t'inquiètes, plus tu approches du cimetière. Donc elles ne peuvent rien. Au lieu de passer le temps dans les soucis et les inquiétudes, la Bible te conseille dans 1 Pierre 5, 6 à 7, décharge tes fardeaux et tes soucis sur Jésus. Il y a quelqu'un qui est prêt à prendre tes inquiétudes. Dis-lui que prends, ça c'est pour toi. Tu as dit que tu es le garage des inquiétudes. Je me les mets là. Mais toi, tu portes les inquiétudes sur toi. Voici l'attitude des personnes qui s'inquiètent. Je donne juste deux éléments. Elle parle seule. Elles sont colériques. Elles agressent tout le monde à cause de leurs inquiétudes. Et elles vont voir la responsabilité des autres dans tout ce qui leur arrive. Donc les inquiétudes ne peuvent rien changer. Alors, si les inquiétudes ne peuvent rien changer à ton sujet, il y a au moins une promesse qui peut te conduire à une chose merveilleuse. Ouvre la Bible dans Hébreux chapitre 13, les versets 5 à 6. On peut aller seulement au verset 5, mais lisons. On va lire posément et on va tirer la conclusion au sujet des inquiétudes. Hébreux 13, 5 à 6. Quelqu'un a trouvé, il le lit pour nous. Bon, si vous n'avez pas trouvé, je vais le lire. Voilà. Les hommes s'inquiètent généralement du lendemain, non? Ils s'inquiètent plus précisément de quel genre de problème? Je vais échouer la tontine. Je n'ai pas encore construit ma maison. Je n'ai pas acheté tel habit. Je n'ai pas. Comment est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent? Dieu commence par un postulat. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et t'invite à deux choses. Contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu sais, gars, que s'il te donne hein, 2 millions,
ça va t'embrouiller. Tu vas devenir fou. Ça va t'embrouiller.
Donc ne fais pas les calculs sur 5 millions, 2 millions. Tu vas commencer à t'inquiéter. Dieu sait. Il te dit pour l'instant, ce que je te donne là, contente-toi de ça. Le meilleur est à venir. J'ai des projets encore plus grands pour toi. Mais pour l'instant là, contente-toi de cela. Or, quand on n'est pas dans, on refuse d'être, de se satisfaire de ce que Dieu nous donne maintenant, on entre dans les inquiétudes. On entre dans des choses un peu compliquées. Alors, quelques mentalités qu'il faudrait combattre au-delà des inquiétudes. Premièrement, la mentalité de perdant. Certaines personnes estiment que tout ce qu'elles font ne marche pas. Elles se considèrent également comme étant des personnes qui sont programmées pour échouer. Et que la cause de leur échec se trouverait sûrement dans leur famille ou bien dans le fait que leurs parents n'aient pas assez investi pour elles. Non. La mentalité de perdant, c'est une mentalité défaitiste qui t'est donnée par Satan, qui voudrait te faire croire que c'est normal que tu sois ce que tu es maintenant à cause de tes échecs et que tes échecs seraient la résultante des choses que les autres auraient fait. Or, c'est très faux. La mentalité de perdant fait que tu entres dans les calculs et les accusations. Tu passes le temps à accuser les autres. Et tu es content toutes les fois que tu as même eu un peu quelque chose. A dit que tu entres dans la logique des personnes où tu commences les phrases par « enfin ». Tu dis « enfin, mon enfant a traversé le coup moyen de. » Non, ça c'est la mentalité de perdant. C'est la mentalité de perdant. Mais cette mentalité est la résultante de ton identité. Si ton identité est liée au fait que tu ne dépendes pas de Christ, alors tu ne sais que celui qui est appelé à dévorer, détruire et perdre. Donc tu es un bon perdant. Jean chapitre 10 nous dit que au verset 9 à 10, que Satan vient pour dérober, égorger, détruire et perdre. Ce n'est pas ça. Donc la mentalité de perdant a à sa source Satan. C'est pourquoi il faut refuser cette mentalité-là. La seconde chose qu'on peut voir, c'est la mentalité de coupable. Il y a des gens qui passent toutes les années à confesser les mêmes péchés. Chaque jour, ils se répandent d'un péché qu'ils ont commis. Hein? Mais comme il avait commis l'adultère un jour, tout ce qui lui arrive maintenant, c'est sûrement parce que j'avais commis l'adultère. Est-ce que Dieu m'a même pardonné de mon adultère là? Donc vraiment, je crois que Dieu ne m'a pas pardonné. Je dois encore arranger quelque chose dans l'adultère là. Arranger quoi? Ça c'est la mentalité des coupables. La Bible dit que dès que tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il ne te pardonne pas seulement, il te purifie de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9. Dieu est fidèle pour le faire. Mais maintenant, quand tu as la mentalité de coupable, ça veut dire que tu accuses Dieu. Que Dieu, tu n'aurais pas bien fait ton travail. Et la mentalité de coupable va t'entraîner dans quoi? Tu vas aller au village chercher un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, c'est-à-dire que comme tu ne crois pas au pardon de Dieu et que tu vois que tu as toute ta culpabilité, tu vas aller sur le crâne de tes ancêtres, tu dis que non, prendre un peu le sang du corps, mettre sur toi, et peut-être tu auras un peu une conscience tranquille pour un temps. Mais quelques temps après, ça revient. Sors de la mentalité de coupable. Cesse de te voir comme un coupable. Éternel coupable. Dieu, il te regarde. Jésus à la croix, quand il a dit tout est accompli, c'était fini. Maintenant, quand tu confesses, il dit que tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. Ta culpabilité a été annulée. Ça, c'est une mentalité qui pollue la vie des chrétiens. Et c'est pourquoi ils vont parfois d'église en église, de prophète en prophète, que non, le prophète y avait dit ceci. Quand le prophète y avait dit, j'avais vu, ça s'est un peu passé. Mais après, c'est encore revenu. Non, c'est parce que tu es attaché plutôt aux hommes et non à ce que Dieu a déclaré. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu dit que tu n'es plus coupable, c'est que tu n'es plus coupable. Même, et ce que Satan est en train de faire, c'est de bombarder ton esprit tous les jours en te disant, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a réellement pardonné? Et tu entres dans la culpabilité. David l'avait compris. Dans le psaume 51, il ne reste pas dans sa culpabilité. Il avoue son péché. Je vous invite à le lire à la maison. Il y a la mentalité de maudit. Et ça, cette mentalité est cultivée beaucoup par les chrétiens. Est-ce que la malédiction de mon grand n'existe plus sur moi? C'est sûr que, même comme je suis devenu chrétien là quand même, il y a quand même un lien encore là qu'il faut que j'attaque. La mentalité, c'est sûr qu'il y a une malédiction qu'on n'avait pas bien enlevée. Et tu portes sur toi, chaque jour, une corbeille de malédiction. Tu marches en route avec la corbeille de malédiction. Mais c'est parce que tu n'as pas conscience de ton identité. Romains chapitre 8, verset 1 dit que, lisons, parce qu'il y a un adverbe là qui est important. Un adverbe là qui est important. C'est un adverbe de temps. Romains chapitre 8, verset 1. Je vais le lire rapidement pour nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que dès que tu fais alliance avec Jésus, dès que tu es né de nouveau, à l'instant là, maintenant là, c'est pour toi. Il n'y a donc maintenant aucune, c'est bien important de souligner ça, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est d'après Ésaïe 53, il a accepté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu entres dans la bénédiction. Il n'y a plus de malédiction. Si quelqu'un, tu marches en route, la main, quelqu'un te stoppe et te dit qu'il y a quelque chose qu'on doit laver au village. Cite-lui ça. Dis-lui que pour moi, là, maintenant, il n'y a plus de condamnation. On dit que le crâne de ton grand-père s'est déplacé. Dis qu'il court même. Il n'y a pas de problème. parce que maintenant, pour toi, il n'y a plus de condamnation. Il faut sortir de la mentalité de maudit. Tu marches en route. Une femme qui ne sait pas brosser les dents le matin t'interpelle. J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît, arrête-toi. J'ai vu, je ne peux que voir, mais je ne sais pas comment faire. Elle voit quoi? Elle ne voit rien. Il voit rien. Donc, cette mentalité où tu écoutes, où maintenant ta vie est déterminée par ce que les gens disent de toi et non ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi nous avons commencé par l'identité. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est valable. Dieu dit que si tu es en Christ, il n'y a plus maintenant pour toi de condamnation. La mentalité d'ignorance. Quand tu ne sais pas ce que tu devrais savoir, c'est très grave pour toi. Quand tu es ignorant des choses prévues ou déclarées à ton sujet avant ta naissance, tu es objet de manipulation de Satan. Ne pas connaître le merveilleux projet de Dieu pour toi te plonge dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans la peur, dans l'anxiété. Et ta vie est comme paralysée. Imaginez un temps soit peu que vous ne connaissiez pas que Jésus donne la vie. Vous vivrez toujours comme si vous étiez mort, n'est-ce pas? Si tu ne connais pas que Jésus donne la vie, tu ne peux pas avoir la vie. Ce que tu ignores développe en toi une mentalité, celle de l'ignorance, et du contentement dans l'ignorance. Est-ce que je savais? Je ne savais pas. Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas tout simplement parce que tu as pris l'habitude de prendre le chemin des choses que tu ne devais même pas savoir. Il y a des choses que Dieu ne voudrait pas que tu t'engages là-dedans. Mais comme tu t'engages dans ces choses-là deviennent comme un cours d'eau qui t'entraîne. Et ce que tu devais connaître, tu passes à côté de cela. Imaginez un temps soit peu, une femme qui va s'asseoir au marché. Au lieu de dire, d'appeler les clients vers elle, elle dit, je vends, je perds. Dans le centre, ceux qui ont grandi dans le centre, quand vous arrivez au marché, on dit, malos ma queue, malos ma queue. C'est-à-dire que je vends et je m'en vais. Je perds. Je vends, je perds. Alors, cette mentalité d'ignorance fait en sorte qu'elle s'assied au marché au lieu de vendre et passe le temps à faire des commentaires. Ça, c'est la mentalité d'ignorance. Et on va accuser les autres demain, ils pratiquent, ils ont fait ceci, ils font des pratiques. C'est parce que tu ignores. Tu ne sais pas comment on appelle les clients. Et tu trouves que les autres qui vendent là, ils ont quelque chose. Au-delà de ces mentalités, nous devons maintenant comprendre quel est le projet de Dieu au sujet de tout cela. Dieu, au regard de tout ce qui vient d'être dit, formule un merveilleux projet. D'abord pour ta mentalité. Il faut connaître le projet de Dieu pour pouvoir changer de mentalité. Le projet de Dieu, selon Jérémie 29, 11, Dieu formule pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Un avenir radieux. Mais cet avenir radieux ne peut être effectif que si tu entres dans les principes de la mentalité de Dieu que nous allons évoquer maintenant, qui consiste à éduquer ta pensée et ta mentalité. Nous allons évoquer ici 5 principes et nous arrêter. Premier principe, les bonnes pensées précèdent les bonnes actions. Les bonnes pensées précèdent les bonnes actions. Et les bonnes pensées sont la semence de Dieu en nous. Tu ne peux pas te contenter des actions, regarder à tes actions et avoir une bonne mentalité. Les bonnes pensées viennent de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2, explique ce principe. Je vais lire très rapidement. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne pensez pas comme les gens de ce siècle. Si tu arrives dans un village, les gens marchent, la tête en bas, les pieds en haut. Toi aussi, tu dis, non, vraiment, je ne veux pas être le seul à marcher les pieds sur la terre et la tête en haut. C'est que tu t'es conformé. Si tu arrives dans un village, tu vois les hommes se marient, commettent l'adultère et tout, tu dis, ah, je veux quoi? Est-ce que c'est moi qui peux changer tout un océan? Un grain de sable, de sel dans un océan, ça change quoi? Rien. C'est ça, se conformer. Il commence par ce principe. Ne te conforme pas. Le conformisme fait que tu deviens un suiveur. Du conformisme, tu entres dans le suivisme. Ne vous conformez pas à la manière de penser et d'agir des hommes de ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La bonne pensée, c'est celle qui est l'émanation d'un discernement. Et le discernement t'amène à entrer dans la volonté de Dieu. Les pensées selon lesquelles tout chemin mène à Rome. Il faut les combattre avec la dernière énergie. Les pensées selon lesquelles aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut les combattre. Les pensées selon lesquelles si tu fais un peu, ça va même faire quoi? Il faut les combattre avec la dernière énergie. Si quelqu'un s'approche un jour de toi et te dit, vraiment, laisse-toi aussi, fais aussi ta part comme ça. Ça va faire quoi? Il faut le combattre. Combattre cette pensée. Si tu la tolères, c'est que bienvenue à un cimetière très proche pour toi. On te posera la question plus tard. Qui es-tu? Tu ne sauras même plus qui tu es. Parce que tu t'es conformé et tu es incapable de discerner la volonté de Dieu. Pour bien agir, il faut bien penser. Pour bien agir, il faut bien penser. Et pour bien penser, il faut avoir la pensée de Dieu. Discerner ce qui est agréable à Dieu. Tant que nos pensées n'auront pas changé, notre comportement ne changera pas. Aujourd'hui, le problème du Cameroun, Ce ne sont pas les gouvernants. C'est la pensée. C'est la pensée. Si vous voulez que le Cameroun change, il doit changer d'abord dans la pensée. Ce n'est pas la corruption, ce n'est qu'un comportement. Mais c'est d'abord la pensée. C'est-à-dire qu'on a tellement enceinté les gens de corruption que partout, ils voient seulement la corruption. Tant que nos pensées n'auront pas changé, notre comportement ne changera pas. Le bon comportement ou action sont le fruit de bonnes pensées. Beaucoup aujourd'hui luttent pour bien agir. Mais le fruit ne précède jamais l'effort. Non. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Et Jésus l'avait si bien dit dans Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sans-moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tant qu'il n'y a pas de cette dépendance-là, tous les efforts seront vains. Deuxième principe, fixez vos pensées sur les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Fixer sa pensée sur les choses d'en haut, c'est comprendre qu'on est mort dans la chair et qu'on ne vit pas pour les choses de ce monde. Mais on vit pour la gloire et là où Christ est. Nous sommes connectés à une source qui est d'en haut et non à la source qui est en bas. La source qui est en bas, c'est une source de pesanteur et qui nous paralyse. Lorsqu'on est fixé sur les choses d'en bas, nous devenons passifs. Mais quand on est fixé sur les choses d'en haut, nous devenons actifs. Parce que nous sommes connectés et nous agissons. Mais ici en bas, on est comme paralysés et comme des personnes qui ne peuvent que se contenter de ce qu'elles voient. Troisième principe, choisis bien avec qui tu dois marcher. Choisis bien avec qui tu dois marcher. Amos 3, 3 dit, deux personnes ne marchent pas ensemble sans être tombées d'accord du but de la marche. Il y a quelqu'un à côté de toi que Satan va utiliser pour bombarder tes pensées. Chaque jour, si tu n'as pas bien choisi celui avec qui tu vas marcher, Satan va attaquer tes pensées à travers cette personne-là. Et pendant que tu vas vouloir faire un pas vers l'avant, vers le Seigneur, il va te dire, mais mon ami, où vas-tu? Reviens, voici là où nous devons être. Choisis bien ceux avec qui tu marches. Dernier élément, tu es une personne distinguée. Tu es une personne distinguée et de distinction. C'est pourquoi Tite chapitre 1 verset 15 dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Considère-toi comme une personne distinguée et refuse que ta pensée soit polluée. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Donc tu es une personne distinguée. Et les choses pures sont ton lot. Les choses souillées ne sont pas ton partage. Et Philippiens 4, 8, nous allons terminer par là. Va plus loin en nous disant. Nous allons faire un exercice ici, d'ici quelques temps. Philippiens 4 dit, après avoir dit aux chrétiens de Philippe, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins au Seigneur. Dieu leur dit ceci. Au reste, quand vous aurez fini,
pas vous inquiéter des choses. Quand vous aurez fait connaître à Dieu vos besoins, sa paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ça veut dire que quand on va vous voir, on va voir la pensée de Jésus en vous. Et quand vous aurez donc fait cela, c'est le subjonctif. Il ne s'agit pas d'un subjonctif présent, comme on peut le dire, aussi simplement. Mais il s'agit ici, dans le temps biblique, c'est de nous amener à être en permanence dans cet état. Ce n'est pas un souhait. Dieu n'évoque pas là un souhait ou un désir. Ce n'est pas un désir, mais c'est comme une injonction. Que tout ce qui est vrai, la vérité, non? Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est, quand on dit approbation ici, c'est même pas l'approbation des hommes, hein, c'est l'approbation de Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. C'est-à-dire que Dieu veut célébrer ce que tu fais. Sois l'objet de vos pensées. Alors, l'exercice que nous allons faire tout à l'heure, moi je m'appelle Edouard. Je dis tout simplement que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet des pensées de Edouard. Amen. Si le désir de notre cœur, tenons-nous sur nos pieds pour prier. Dis au Seigneur, merci pour la révélation de ce soir. Présente-lui la mentalité que tu veux abandonner. Dis au Seigneur, ce qui a souvent gouverné tes pensées. On vient de dresser le tableau de quelques clichés de mentalité qu'il faut refuser. Tiens-toi sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et refuse ces mentalités. Demande pardon au Seigneur parce que tu as cédé ou prêté le flanc à des pensées, tu les as entretenues, tu as même voulu comprendre le péché ou expliquer le péché. Répands-toi pour cela. Dieu déclare que tu lui appartiens. D'après Jean 15, 5, dis au Seigneur que tu veux dépendre de lui. Qu'il transforme ton système de pensée et que tu soumets ton système de pensée à sa Seigneurie.
Si tu te voyais toujours comme un coupable, dis au Seigneur merci parce que dès à présent tu as compris qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, que tu n'es pas maudit, que tu n'es pas un coupable. Refuse cette mentalité. Engage-toi à sonder les Écritures pour sortir de l'ignorance, pour connaître le projet de Dieu à ton sujet, dans sa parole, les promesses qu'il a faites à ton sujet. Tu as eu une mentalité qu'on pouvait mélanger Dieu avec d'autres faux dieux. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu as même encouragé les gens à aller faire des pratiques au village. Dis au Seigneur, je regrette, je renonce à cela, je me répands. Vous dites cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi afin que tu renouvelles ma pensée. Aujourd'hui, je renonce à des mauvaises mentalités qui ont toujours dirigé ma vie. Je te cède mon cœur. Je te cède mon esprit. Qu'il soit transformé. Et que tu exerces un total contrôle sur mes pensées et que mes pensées précèdent mes actions. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la mentalité de maudit. Je renonce à la mentalité de coupable. Je renonce à la mentalité de perdant. Je cesse de m'inquiéter parce que tu as dit, faites-moi connaître les besoins de vos cœurs. Je m'engage à te faire connaître tous les besoins de mon cœur et accepter fidèlement tes promesses. Merci Seigneur Jésus. Fais de moi un vainqueur. Au-delà des mauvaises pensées, donne-moi de marcher à ta suite. Car tu as dit que tu ne me laisseras pas. Merci pour ta promesse. Merci pour ton Saint-Esprit qui me convainc de péché et qui me relève. Exerce mon esprit au discernement. Et que seule ta volonté s'accomplisse en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.